À 29 ans, en septembre 2017, il est journaliste et intègre l'école de police de Saint-Malo. 3 mois plus tard, il en ressort ADS, adjoint de sécurité. Il va vivre de près de nombreux cas de violences policières, mais aussi le mal-être policier, les deux grands tabous comme il les appelle. Après avoir démissionné de la police, il met tout par écrit dans un livre paru début septembre aux éditions Goutte d'Or. Ça s'appelle Flic, un journaliste a infiltré la police. Interview de son auteur sur Radio PFM. Bonjour Valentin Gendreau.
Bonjour.
Ma première question, qu'est-ce qui vous a le plus choqué au cours de ces 3 mois de formation?
C'est par exemple le fait à l'issue des 3 mois, de sortir de l'école nationale de police de Saint-Malo avec une habilitation pour porter une arme sur la voie publique. Sachant que j'étais un très mauvais tireur avec mon arme de service, ça pose quand même question sur ma dangerosité présumée sur le terrain. C'est un des faits qui m'a le plus surpris et le plus choqué, ce degré de rapidité en fait, avec lequel on pouvait devenir policier.
Et du coup, selon vous, quelles seraient les choses à changer dans cette formation?
Je pense qu'il y a plusieurs choses à améliorer. Je peux vous donner plusieurs exemples, hein, mais ça peut être par exemple le code de déontologie. Donc c'est le code qui régit les pratiques des policiers et des gendarmes en France. C'est quelques heures de formation seulement, alors que c'est quelque chose qui est absolument central et fondamental dans la pratique quotidienne pour les policiers. L'autre chose choquante, c'est par exemple la formation sur les violences conjugales. Elle a duré 3 heures. C'était à la fin des 3 mois de scolarité, donc ça ressemblait un peu à un cours d'anglais de fin d'année, vous voyez. Et dans ces 3 heures-là, il y avait une première heure théorique où le formateur nous expliquait comment est-ce que des couples peuvent en venir à des situations de violence conjugale. Et les 2 heures restantes, c'était un film qu'on a regardé. Donc c'est le film, c'était Mon Roi, réalisé par Maïwenn avec Vincent Cassel. Et c'est tout ce qu'on a eu en fait en termes de violence conjugale. Donc ça, c'est quelque chose qui est choquant et c'est évidemment quelque chose qui est à améliorer sans plus tarder.
Pour votre première mutation, vous espérez aller dans un commissariat du 19e, mais non, vous atterrissez à l'I3P. Vous nous expliquez ce que c'est et comment ça se passe là-bas?
Alors, l'I3P, c'est un sigle, c'est l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris. C'est, pour résumer, un service d'urgence psychiatrique réservé à la police parisienne. C'est une structure qui date de la seconde partie du 19e siècle, qui est unique en Europe. Et vous avez des gens qui sont en fait dans des états de crise, de parano, de schizophrénie, de délirium, etc. Voilà. Donc en fait, ils arrivent ici, dans cette structure, et elle sert un petit peu de garde-triage de la folie ordinaire à Paris. Cette garde-triage consiste à hospitaliser les gens qui le nécessitent le plus, et puis remettre en garde à vue les gens qui sont moins fous que les autres, on va dire.
Et comment vous expliquez que cet établissement, créé en 1872, unique en Europe, comme vous le dites, existe encore?
Parce que c'est un lieu qui est extrêmement secret, c'est extrêmement anonyme. Moi, je ne connaissais pas l'existence de cette structure-là avant d'y aller moi-même. Vous avez peu de relais médiatiques sur ces structures-là. C'est, comme vous l'avez dit, quelque chose qui est ancien. On va pas faire l'historique de la préfecture de police de Paris, mais ça naît sous le consulat, donc sous Bonaparte. Et vous avez, au cours du 19e siècle, une loi sur les insensés en 1838 qui consistait à séparer les personnes présentant des troubles du comportement de personnes qui étaient des prostituées, des vagabonds, etc. Donc en fait, ça date de cette période-là. Et ça fait partie des joyaux de la couronne de la préfecture de police de Paris. Donc à aucun moment, il a été question de s'en séparer. En revanche, en 2011, une entité indépendante sur les lieux de privation de liberté a estimé qu'il était temps de supprimer ou de faire fermer cette structure-là. Mais son avis n'étant que consultatif, la préfecture de police de Paris et le ministère de l'Intérieur ont jugé bon à l'époque de conserver cette structure. Donc elle existe toujours.
Après cet épisode de 15 mois, vous arrivez enfin dans votre premier vœu, le commissariat du 19e arrondissement de Paris. Vous nous racontez votre première journée?
Mon premier jour, c'est après avoir endossé l'uniforme, c'est de voir un policier qui va frapper quelqu'un qui est en garde à vue. Cette personne en garde à vue demande simplement à aller aux toilettes. Et parce qu'elle a tapé trop fort sur la porte de sa cellule, le policier en question va l'extraire de sa cellule et le frapper. Un quart d'heure ou 20 minutes plus tard, je suis devant la porte du commissariat pour mon premier poste. Donc je suis ce qu'on appelle à la permanence, c'est-à-dire que je m'occupe des allées et venues des personnes qui souhaitent se mettre en relation avec la police. Une femme de 70 ans environ se présente à nous. Donc nous, c'est mon collègue et moi. Cette femme dit j'ai été victime de menaces de mort de la part de mon mari. Réponse de mon collègue, madame, si ça se reproduit, revenez nous voir. Ça en dit long, en fait, ces deux exemples-là, ça en dit long sur, d'un côté, les violences policières, qui souvent sont dans ce que moi j'appelle des zones grises, c'est-à-dire elles sont hors radar. À aucun moment vous n'en trouverez trace sur les logiciels écrits de la police, à aucun moment vous n'en trouverez trace sur les logiciels, sur les ondes radio de la police. Ça se passe comme ça, avec un côté pas vu, pas pris. Voilà. Ce policier-là, ce jour-là, il a frappé, se gardait à vue, pas vu, pas pris. Et les policiers autour de lui n'ont pas parlé. Et l'autre cas, ce policier qui shoote, pour reprendre un terme de la police, qui shoote cette vieille dame, c'est-à-dire qui les conduit, qui lui dit de non, non, circuler, il n'y a rien à voir, sur les violences conjugales, ça montre aussi le degré d'impréparation des policiers vis-à-vis de ces situations précises-là, c'est-à-dire les violences conjugales.
Et après avoir vu tout ça le soir, quand vous rentrez chez vous, vous vous dites quoi?
Bah, le premier jour, je me dis, mais dans quel monde suis-je? Je viens d'arriver où là? C'est quoi ce monde parallèle que je ne connais pas encore, qui moi m'est totalement inconnu, puisque dans mon entourage proche, avant de devenir policier moi-même, je ne connaissais pas de policier, donc je ne savais pas du tout ce que ça pouvait être que d'être policier au quotidien. Je me dis, ça va durer 6 mois, ça va être très long. Ça va être très très long de devoir endurer, supporter ces conditions de travail-là, parce que c'est un boulot qui est quand même extrêmement difficile, mais aussi ces comportements violents, racistes, dans certains cas aussi, de certains policiers.
Après les récents événements de l'affaire Michel et la suspension des policiers, mais aussi les événements de la place de la République, comment vous vivez le parallèle avec ce à quoi vous avez assisté?
Je pense que le degré de violence que l'on voit sur les images de l'affaire Michel, comme vous l'appelez, c'est décuplé par rapport à ce que moi j'ai pu vivre. Voir quand j'étais journaliste infiltré dans la police dans le 19e arrondissement. En revanche, il y a une similitude, c'est le fait que dans cette affaire-là, les policiers ont dissimulé les faits, ils ont travesti la vérité en rédigeant un faux procès-verbal d'interpellation, le PVI. C'est ce qu'on appelle un faux en écriture publique, c'est quelque chose qui est extrêmement grave pour un policier, c'est passible des assises, de 15 ans de prison, de 225 000 euros d'amende. C'est quelque chose que moi j'ai aussi vécu durant mes 6 mois dans le commissariat, puisqu'il y a une affaire, l'affaire qui l'affaire Konaté dans mon livre, où des policiers vont écrire un faux en écriture publique, exactement comme pour ce monsieur.
Alors justement, vous avez vécu un certain nombre de cas de violence policière. Que répondez-vous à ceux qui vous accusent de ne pas avoir réagi ou de ne pas avoir coupé court à votre infiltration?
Simplement parce que moi je considère qu'une infiltration, c'est comme prendre un train en marche. Prendre un train en marche, ça veut dire observer, raconter, mais pas me faire remarquer ni positivement ni négativement. Donc j'ai en fait suivi le train, suivi le mouvement, j'ai fait comme mes collègues. Le jour où il a fallu faire ce faux témoignage, couvrir ce policier qui est allé trop loin, j'ai fait exactement comme les autres policiers. Donc on peut me reprocher aujourd'hui de ne pas avoir dénoncé ces faits-là. On peut revenir sur des faits qui se sont passés il y a un an, de gens qui d'ailleurs bien souvent ne savent pas précisément de quoi ils retournent, qui n'ont évidemment pas vécu c'est ce que j'ai pu vivre moi à ce moment-là. Il faut savoir aussi que moi j'ai un rapport à la violence qui est assez particulier, c'est-à-dire que lorsque je sens une tension naître, je n'ai qu'une envie, c'est de fuir. Là, à ce moment-là, je pouvais pas fuir. Donc j'étais là, totalement impuissant, totalement pétrifié aussi. Et donc j'ai simplement subi ce moment. Voilà, c'est un moment de grande souffrance pour moi, hein, faut pas l'oublier. Et ensuite, ce qu'il faut pas oublier non plus, c'est que j'aurais très bien pu décider de ne pas en parler. De ces moments-là. J'aurais très bien pu les mettre sous le tapis, moi aussi. Et vu que je suis dans une démarche d'honnêteté totale vis-à-vis des lecteurs, vis-à-vis des gens qui s'intéressent à ces problématiques-là, je raconte tout. Je n'ai rien à cacher, moi. J'assume tout ce que j'ai fait. Et aujourd'hui, si on peut parler de ces violences policières-là, c'est simplement parce que je le raconte dans ce livre.
Pour revenir sur le thème des violences, la loi sur la sécurité globale a été votée par l'Assemblée nationale. Elle porte atteinte à la liberté de la presse et amende la loi de 1881. Quand on évoque ce sujet, quels sont les mots et les sentiments qui vous viennent à l'esprit?
Je considère que le niveau de tension en ce moment entre la police et les habitants, les Français, il est très élevé. Que le niveau de défiance l'est tout autant. Que le niveau de confiance, par contre, est très faible. Et qu'une loi comme celle-ci, la loi sécurité globale, elle ne va que dans le sens de la défiance des habitants vis-à-vis de la police. Il y a dans l'article 24, par exemple, l'idée de flouter les visages de ces policiers, un côté cacher ces violences policières potentielles qu'on ne saurait voir. Donc il faut faire extrêmement attention, c'est vraiment pas une bonne loi. C'est pas une bonne loi pour l'article 24, mais aussi parce que cette loi prévoit une privatisation de la sécurité en France. Or, il s'agit d'un droit régalien. Il faut que ça reste dans les mains de l'État. Il n'y a pas de boîte privée à pouvoir se nicher là-dedans. C'est pas possible, c'est pas tolérable. Donc, il faut évidemment revenir sur cette loi, pas seulement sur l'article 24. Il faut revenir sur la loi entière. Il faut qu'elle soit totalement abrogée. Voilà. C'est uniquement ce que j'ai à dire. C'est assez lourd de sens, je pense, parce que il faut quand même comprendre que plus on avance, plus on est dans la non-reconnaissance, dans ce déni de réalité des violences policières, dans le fait de vouloir protéger les policiers au détriment de la vérité, on continue d'aller droit dans le mur. Et il faut évidemment qu'on s'arrête avant de mettre tous la tête dans le mur.
Alors justement, vous qui étiez du côté de la police, comment on ressent cette fracture avec la population qu'on côtoie quotidiennement?
La police de proximité, elle n'existe plus depuis 2003. Je pense que ça a été une énorme erreur de la supprimer parce que ça permettait un lien entre la police et les habitants. Alors certes, tout n'était pas parfait, mais ça permettait un lien. Aujourd'hui, le lien, il n'existe pas. Quand vous avez des policiers qui sont en intervention, ils sont face à des gens qui sont dans la défiance. Vous avez deux clans, en fait, les policiers et les personnes qui sont régulièrement stigmatisées parce que jeunes de banlieue ou jeunes de cité ou de quartier. Voilà. Il n'y a pas de dialogue entre les deux. Les seuls dialogues, c'est lorsque des policiers font des interventions de police. Et les interventions, c'est évidemment quelque chose qui est rapide, brutal, où il faut aller vite, où il faut faire preuve de réactivité lorsqu'on est policier. Mais à aucun moment, les policiers vont parler tranquillement, paisiblement, sereinement avec ces personnes-là. Donc évidemment, plus on avance et plus on est dans deux clans qui paraissent irréconciliables. Donc évidemment, il faut, à mon sens, remettre du dialogue, remettre du lien entre police et habitants.
Et qu'est-ce qu'il faut changer au niveau de l'institution pour rétablir ce lien?
Il faudrait déjà que les policiers soient des gens qui soient condamnés lorsqu'ils dérapent. Condamnés, sanctionnés, voire éventuellement même révoqués lorsqu'ils sont reconnus coupables de violences policières, par exemple. Aujourd'hui, des policiers qui sont auteurs de violences policières, ils ne sont que trop rarement condamnés. Il faut que pour que les policiers soient respectés, il faut avant tout qu'ils soient respectables. Aujourd'hui, il faut que on puisse se dire. Le policier en question, il est allé trop loin, il sera sanctionné. Il y a un sentiment d'impunité chez certains policiers qui fait que, du coup, des événements tragiques comme celui de l'affaire Michel peuvent émerger. Donc, c'est pas tolérable.
Alors on change de sujet, ça veut dire quoi pour vous être journaliste?
Un journaliste, c'est quelqu'un qui va montrer ce que le grand public, les lecteurs, les auditeurs, les téléspectateurs ne pourraient pas voir. Voilà, c'est d'aller sur des sujets de reportage, d'enquête, d'investigation et montrer ce que les citoyens ne pourraient pas voir. Donc en fait, il a un rôle d'informer, de montrer, de raconter, de dénoncer aussi dans certains cas. Et tout ça, ça se fait pour le bénéfice de l'ensemble de la communauté. Après, libre évidemment à cette communauté-là, aux membres de cette communauté-là, de s'emparer ou non des sujets.
Après avoir été pendant 2 ans policier, est-ce que votre vision a changé du point de vue du métier de journaliste?
Non, non, moi j'ai fait une. Ce livre, c'est le résumé, le récit d'une expérience de 2 ans qui est un sacré sacrifice personnel, quand même, de passer 2 ans là-dedans, dans cet univers qui n'était pas du tout le mien, pour en livrer un texte qui est sans doute brutal, mais qui est vraiment au ras du réel. On est vraiment les deux pieds dans le quotidien d'un commissariat d'arrondissement. Mon regard n'a pas du tout changé sur le métier de journaliste. Au contraire, j'ai l'impression, le sentiment d'avoir fait un travail important, salutaire. Et c'est exactement comme ça que j'envisage mon métier.
Et justement, comment vous avez réagi face aux critiques que la profession de journaliste vous a adressées à l'égard de ce livre et de votre comportement dans ce livre?
Comme je disais tout à l'heure, hein, vous avez des gens qui vont critiquer, il y a des gens qui vont repasser un an après les faits en disant il fallait faire ci, il fallait faire ça. Déjà, il faut avoir un minimum d'empathie pour la personne que je suis. Les critiques, elles viennent de certains journalistes, elles viennent pas de tous les journalistes, loin de là, hein. J'ai été quand même plus souvent félicité que critiqué sur ça. Ensuite, j'ai appris que certaines personnes qui me critiquaient pratiquaient un journalisme de bureau. Donc moi, ça m'amuse un peu les gens qui restent derrière des bureaux et qui vont commenter ou critiquer les gens qui, eux, sont sur le terrain. Un journaliste, c'est lorsqu'il reste derrière un bureau qui m'inquiète. C'est une phrase de Pierre Lazareff, qui est l'ancien patron de France Soir. Voilà, moi, effectivement, je suis assez d'accord avec ça. Quand un journaliste reste derrière son bureau, qui passe des coups de fil et qui ne fait que ça, effectivement, c'est inquiétant parce qu'il n'a pas de prise avec le réel.
Et pour vous, où se situe la place du journaliste dans la société?
C'est d'informer, c'est de raconter des histoires vraies. C'est ça le boulot d'un journaliste. Voilà. Et évidemment, un journaliste est un citoyen comme les autres. Un policier est un citoyen comme les autres aussi. Nous avons tous des droits, des devoirs. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Voilà. Un journaliste fait son boulot, c'est tout.
Et vous maintenant, vu que vous n'êtes plus policier, que vous avez totalement retrouvé votre métier de journaliste, que le livre est sorti il y a maintenant 2 mois, qu'est-ce que vous allez faire?
Faire une pause ou peut-être même un arrêt définitif avec le journalisme d'infiltration, parce que c'est une grande usure psychologique que de le pratiquer à plein temps. J'ai une matière très très riche sur la psychiatrie, puisque je suis resté 15 mois à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris. Je compte l'exploiter. Dans le livre, elle est sous-utilisée pour la bonne et simple raison que le sujet du livre, c'est la police, c'est pas la psychiatrie. Et tenir police et psychiatrie dans un seul bouquin, c'était un trop grand écart. Donc avec mes éditeurs, on avait pris le parti de moins parler de la psychiatrie et plus d'axer sur la police. Donc j'ai en tout cas une matière très riche sur la psychiatrie, donc je compte l'exploiter. Voilà. Là après, avec le confinement et le reconfinement, ça freine un peu mes ardeurs de reportage, mais une fois qu'on sera un peu libéré de tout ça, je compte bien remettre le pied à l'étrier.
Eh bien, on est pressé de lire vos prochaines productions. Merci Valentin Gendreau d'avoir répondu à mes questions sur Radio PFM. Je rappelle que votre livre s'appelle Flic, un journaliste a infiltré la police, et c'est aux éditions Goutte d'Or.
C'était un entretien avec l'auteur Valentin Gendreau, une interview réalisée par Valentin, ancien stagiaire de Radio PFM.